à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeur de Calanma Radio, bonjour. Vous écoutez À 23 pas du mystère, votre émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. Avec aux manettes votre humble serviteur, le prof Patrick, mais surtout le maître de ces lieux, Jérôme.
Bonjour Patrick.
Et notre chroniqueuse experte de tout un tas de choses que vous verrez, Stéphanie, bonjour.
Bonjour Patrick et bonjour Jérôme.
Allez Jérôme, c'est parti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vous rappelle, donc on avait évoqué Sherlock Holmes dans la première émission du mois de février. Eh bien, nous allons poursuivre cette archéologie du roman policier avec cette fois non pas un personnage de fiction, mais une personne ayant réellement existé, mais une personne hors du commun, à l'existence tout à fait romanesque, qui a inspiré de nombreux romanciers. J'ai nommé Eugène François Vidocq.
Formidable, Vidocq.
Voilà. Et dans une seconde partie, nous retrouverons nos chroniqueurs, Geek Patrick pour la SF, Miss Lemon, qui nous parlera de l'étoffe d'un gendarme guyanais, et Gilles Poussin, qui nous parlera de la seconde série de la revue Métal Hurlant, qui est une version comics américain, peu connue.
Voilà. Chouette programme.
À 23 pas... du mystère.
Alors, on commence par quoi ?
Donc, on va commencer par parler donc d'Eugène François Vidocq, né à Arras, dans le nord de la France, en 1775, et décédé en 1857.
Donc, un personnage historique, qui a vraiment existé. C'est voilà, pas un personnage de roman.
Non, mais on va voir qu'il y a des nombreux liens avec la littérature. Donc, on va faire une petite biographie assez rapide. Donc, il a une enfance et une jeunesse assez turbulente, ce Vidocq. Il se bagarre beaucoup, il commet de petits larcins. Et il finit par être condamné en 1796 aux travaux forcés. Alors, mais comme il est assez rebelle, il s'évade à plusieurs reprises. Il est repris, il s'évade de nouveau. Et il est incarcéré donc, au cours de son parcours dans diverses prisons et ensuite au bagne. Donc il connaît les bagnes de Brest et de Toulon. Ce sont deux célèbres bagnes de l'époque. Au cours de ses évasions, il va passer plusieurs années sous de fausses identités, puisqu'il est recherché, donc il change d'identité à plusieurs reprises.
C'est un mauvais garçon.
Tout à fait. Et il finit par être repris en 1809. Et là, il a une sorte de révélation. Il se dit qu'il va abandonner cette vie de passer en prison et qu'il va passer de l'autre côté de la barrière. Et il offre alors ses services à la justice comme indicateur de police.
Et ça, c'est un coup de génie. Voilà. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais en tout cas, c'est lui qui va rendre ça officiel quelque part dans l'histoire de la police française.
Il y en avait sans doute, mais c'était une idée assez fabuleuse qu'il a eue, effectivement. Mmh. Et alors, pour commencer, malheureusement, il doit quand même retourner en prison, mais cette fois sous une fausse
identité.
Voilà, un faux procès, en fait, puisqu'il a besoin d'être incarcéré pour gagner la confiance des autres détenus et amener à ce qu'il lui fasse des confidences qu'il va ensuite révéler à la police. Parce qu'à l'époque, on est bien avant l'identité judiciaire, donc il n'y a ni empreinte digitale, ni portrait robot, etc. Et donc les criminels changeaient fréquemment d'identité. Et il n'était pas rare qu'ils soient arrêtés pour une affaire, mais que la justice reste ignorante des autres méfaits qu'ils avaient connus, qu'ils avaient commis.
C'était le bon temps pour les criminels.
Et donc on pouvait avoir quelqu'un qui était incarcéré pour un vol alors qu'il avait commis plusieurs assassinats. Et donc Vidocq se chargeait en prison de démasquer ces criminels et d'amener plus de condamnations que ce qui avait été fait à l'origine. Voilà. Donc c'est un métier pas très
moral.
Ouais, pas très propre, disons.
You're a
Mais bon,
snitch.
Il commence quand même sa carrière pour la police là-dedans. Et jusqu'en cela, à peu près jusqu'en 1811, où là, il prend un peu de grade, il sort de prison et on lui confie la direction d'une brigade de sûreté qui est composée d'anciens criminels. Comme il reste toujours dans l'entre-deux de son ancienne existence et la nouvelle. Ce qui permet à ces gens-là d'être assez efficaces, puisqu'ils connaissent très bien les criminels qu'ils doivent combattre ou arrêter, puisqu'ils viennent du même milieu.
Oui, bien sûr. Donc, ça va être sa force, hein, de toute façon, connaissance intime du milieu de la criminalité.
Donc c'est un procédé assez efficace. Il finit par être gracié en 1818. Mmh. Et à ce moment-là, il devient un homme assez public. Par exemple, il rencontre Honoré de Balzac en 1822.
D'accord.
Il va démissionner en 1827. Il reprendra brièvement du service au début des années 1830, mais il démissionne. Et il se lance en 1832 dans ce qu'on appelle aujourd'hui la police privée, c'est-à-dire qu'il crée un bureau de renseignement universel dans l'intérêt du commerce, qui a pour objectif de dépister les escrocs qui sévissent dans le commerce. Et donc, ce bureau de renseignement, c'est un prototype de l'agence de police privée.
D'accord.
Enfin, simplement.
Une sorte de détective privé, mais affecté au commerce spécialement.
Voilà, c'était les débuts de la police privée dans ce domaine-là. Voilà un peu son parcours. Il devient connu du grand public à la fin des années 1820, puisqu'il publie son autobiographie, qui s'appelle « Les mémoires de Vidocq, chef de la police de sûreté jusqu'en 1827 », qui paraît en deux tomes en 1828-29. Et quelques années après, en 1836, il publie un autre ouvrage qui s'appelle « Les voleurs, physiologie de leurs mœurs et de leur langage », qui est suivi d'un dictionnaire d'argot.
C'est ainsi que se construit sa légende en tant que personnage médiatique cette fois-ci, hein, son parcours hors norme.
Là, il devient connu du grand public. Mm-hmm. Et donc, pour résumer un peu son parcours, c'est un parcours assez hors du commun. Tour à tour voleur, forçat, indicateur de police, policier et policier privé. Donc rien d'étonnant à ce que ce Vidocq ait exercé une large influence sur la littérature, la fiction, à partir donc des années 1830 où sa légende commence à être connue, à être diffusée. Alors on va voir quelques éléments de sa renommée. En 1834, par exemple, il inspire à Balzac un personnage qui est devenu assez célèbre,
c'est très célèbre,
de Vautrin, dans le Père Goriot.
Ouais.
Sachant que Vautrin, à l'origine, est un surnom qui avait été donné à Vidocq dans sa jeunesse et qui est un nom régional du nord de la France qui désigne un sanglier. Et qui fait référence à la stature et à la force de Vidocq.
Puissance, ouais. Ouais,
à sa physique. Puissance. Donc le nom de Vautrin est un lien direct avec ce Vidocq. Quelques années plus tard, en 1862, c'est Victor Hugo qui s'inspire de Vidocq pour créer Jean Valjean dans son fameux ouvrage Les Misérables. Et puis, on a également Alexandre Dumas, dans un ouvrage un peu moins connu, mais qui est aussi dans les débuts du roman policier, qui s'appelle « Les Mohicans de Paris ». Eh bien, on a un personnage qui s'appelle Monsieur Jacal, qui est le chef de la police de sûreté. Donc ça paraît dans la deuxième moitié des années 1850.
D'accord.
Avec un personnage également inspiré de Vidocq. Donc là, on a trois grands écrivains français qui, tour à tour, prennent comme modèle ce fameux Vidocq en empruntant des épisodes de sa vie pour les transférer en littérature.
Il va donc créer une sorte de premier idéal type du roman policier, quoi, quelque part.
Il inspire le personnage et des types de récits également. Et il va aussi... sa renommée va se diffuser à l'étranger grâce à la traduction en anglais la même année que sont publiées en France ses mémoires. Eh bien, il y a une traduction qui paraît en Angleterre avec des rééditions par la suite. Donc on a une diffusion à l'étranger. Et puis ces mémoires, de par leur renommée, vont générer des copies d'autres policiers qui vont se dire tiens, c'est une bonne idée de publier voilà un filon de publier ces mémoires. Alors on a un premier copie, disons, une première suite assez indélicate, puisqu'elle a été faite par un de ses collaborateurs. C'est-à-dire, comme à l'heure actuelle, lorsqu'un homme public, un homme politique publie ses mémoires, en fait, il se fait toujours aider par un littérateur qui se charge de mettre en forme ses souvenirs. Eh bien, ça existait déjà à l'époque. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça des nègres littéraires, on appelait ça des teinturiers.
Ah ouais, voilà, d'accord.
Celui qui écrivait à la place. Et donc, son teinturier, qui s'appelait Louis-François l'Héritier, va faire quelque chose d'assez indélicat, c'est-à-dire qu'en 1830, donc l'année suivant la publication des mémoires, il publie un supplément aux mémoires de Vidocq, sous-titré « Dernière révélation sans réticence par le rédacteur des 2e, 3e et 4e volumes des mémoires ». Mais en fait, ces mémoires, ce supplément, a été écrit sans l'autorisation de Vidocq, à l'aide de documents que l'héritier avait subtilisés à Vidocq avant qu'il ne se fâche.
On sent que la législation sur les droits d'auteur n'était pas encore très très solide à l'époque, parce que là, ce serait impossible aujourd'hui.
Il n'y en avait pas. Et donc, il y a d'abord cette espèce de mémoire apocryphe de Vidocq, et qui sont suivies de tas d'autres mémoires par des différents membres de la police. On peut citer notamment un préfet de police de la ville de Paris, qui s'appelait Henri Gisquet, qui publie dès 1831 les mémoires de M. Gisquet, ancien préfet de police. Voilà. Donc on a un filon, comme tu le disais, qui s'est mis en place et qui se poursuit jusqu'à nos jours, de policiers qui publient leurs mémoires.
Mais s'il y a un filon, ça veut dire qu'il y a une demande aussi. Voilà. C'est vraiment, il y a un engouement dans ce siècle pour ces affaires un petit peu.
C'est un début. Voilà. Donc avant de poursuivre, on va peut-être passer une petite plage musicale.
Oui, d'accord, on fait la surprise.
En rapport avec notre thème du jour.
Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner? Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Oh, 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 faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu? Ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, faut-il vraiment se laisser emprisonner?
Vous écoutez à 23 pas du mystère sur Calade Ma Radio. l'émission consacrée au polar et à la science-fiction. Jérôme nous parle d'un personnage historique qui a eu une importance dans l'histoire des premiers engouements pour les romans policiers, c'est François Vidocq, le personnage célèbre. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Jérôme ?
Alors, c'était une musique composée par Serge Gainsbourg qui servait de générique à une série télévisée en 13 épisodes qui s'appelait Vidocq, diffusée en 1967. Et qui a donc inspiré complètement des mémoires de Vidocq, qui a été suivi par une deuxième série d'épisodes que tu as peut-être connu dans ta jeunesse, qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Vidocq, avec un nouvel acteur dans le rôle de Vidocq, qui était Claude Brasseur,
le génial Claude Brasseur,
qui n'était pas dans la première série, par contre, c'était un certain Bernard Noël qui interprétait le personnage de Vidocq dans la première série.
Tout à fait.
À 23 pas du mystère.
Alors, on en est où, Jérôme, dans notre histoire autour de Vidocq ?
Alors, nous avons présenté le personnage, fait sa biographie. On va essayer maintenant de le resituer dans un contexte un peu plus large de son époque pour voir l'importance et l'influence de ce Vidocq dans la société de son époque. Donc, sa popularité, donc diffusée par ses écrits notamment, elle s'inscrit dans un intérêt plus général à son époque pour les affaires criminelles et les causes célèbres. Donc on peut mentionner que dès le début du 19e siècle, donc on est dans un contexte d'expansion des villes.
Oui, bien sûr. Urbanisation très forte avec la révolution industrielle.
Eh bien, avec cette urbanisation se développe la criminalité. Ce qui va créer dans les villes une ambiance de danger, un certain sentiment d'insécurité dans le public, et donc un attrait pour tout ce qui est faits criminels qui peuvent être racontés dans la presse, qui est également qui se développe également à l'époque.
C'est le début de l'engouement pour les faits divers.
Voilà, c'est ça. Et donc, on a les débuts de la médiatisation du crime. Alors, simplement quelques exemples. On a, au début du 19e siècle, l'exécution publique d'une bande criminelle qui s'appelle les chauffeurs d'orgères, qui sévissait dans la Beauce, qui va donner lieu à ce qu'on appelle de la médiatisation, c'est-à-dire qu'on a des comptes rendus dans la presse, on a les minutes du procès qui sont diffusées, on a des ouvrages qui sont écrits sur ces chauffeurs. Donc je vous rappelle que les chauffeurs étaient des bandits qui attaquaient les fermes la nuit et pour en voler l'or ou l'argent que pouvaient détenir les fermiers. Et pour les faire avouer, ils leur chauffaient les pieds devant au feu.
Donc chauffeur pour chauffer les pieds.
Voilà, chauffer, même brûler, brûler les pieds.
La torture.
Carrément, voilà. Mais ces bandes-là étaient appelés des chauffeurs.
D'accord.
Voilà. Donc on a un premier procès qui est médiatisé. On a aussi dans la presse la naissance de la Gazette des Tribunaux, qui est un journal de jurisprudence et de débats judiciaires, publié à partir de 1825, dans lequel on trouve le compte-rendu des affaires civiles et criminelles, c'est-à-dire jugées à la cour d'assises, et la chronique des faits divers. Et cette gazette va constituer une mine de renseignements pour les romanciers de la période.
Ils
vont se servir de faits réels qui vont transposer pour écrire des romans qui
soient réalistes,
policiers ou judiciaires ou criminels. Voilà, donc ça c'est une gazette qui a une importance assez considérable. Et donc, pour resituer la place de Vidocq, eh bien, ses mémoires paraissent à une époque où le sujet est particulièrement d'actualité, en fait. Vidocq se trouve au centre des préoccupations de la société de son époque, et il va pouvoir mettre à profit cet intérêt pour devenir quelqu'un d'assez célèbre, courtisé par les romanciers, etc. Et donc, époque où on voit apparaître, on voit se mettre en place une police moderne, puisque la police de l'Ancien Régime était essentiellement une police politique qui s'occupait des ennemis de l'État plus que des criminels de droit commun. Tandis que la nouvelle police, elle, va se développer autour du crime, et Vidocq fait partie de cette nouvelle police. Et donc le succès de ces mémoires et de tout ce qui a trait à ce Vidocq s'explique sans doute par l'adéquation entre ce qu'il est à ce moment-là et la société de son époque.
Ouais, il est en cohérence avec l'air du temps.
Tout à fait. Alors ce qu'on peut voir, c'est que son cas, alors, qui est très connu, mais il n'est pas isolé, puisque si on va de l'autre côté de la Manche, on va trouver le même phénomène en Angleterre. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au milieu du XVIIIe siècle, on a une publication qui s'appelle le Newgate Calendar, qui est...
Du XVIIIe ou du XIXe?
On revient un peu avant, on est le siècle d'avant.
Ah ouais, ils sont précurseurs. En même temps, c'est logique, la révolution industrielle a commencé bien avant, donc l'urbanisation aussi, c'est logique.
Ouais. On avait cette gazette qui était Newgate, c'était une prison célèbre, la prison de Newgate, mm-hmm. et le directeur de la prison avait commencé à compiler une liste des exécutions qui étaient faites dans la prison, et a publié cette gazette. Et cette gazette va évoluer au cours du temps, et on va y ajouter différents renseignements, et notamment des vies de criminels, plus ou moins romancés.
D'accord.
On racontait là-dedans des faits divers. Et on en profite aussi pour dénoncer les différents vices, l'alcoolisme, le jeu, la prostitution, etc. Toujours en Angleterre, dès 1749, est créée une première unité officielle de police à Londres qui s'appelle les Bow Street Runners, qui étaient en fait au service des magistrats et qui étaient que les magistrats envoyaient appréhender des criminels pour qu'ils soient jugés.
D'accord.
Au 19e siècle, début 19e siècle, on a la publication de mémoires d'un officier de cette équipe, de cette
unité de Bow Street. Hein.
Voilà. En 1827, on a quelqu'un qui se fait appeler Richmond et qui publie un ouvrage qui s'appelle « Scène dans la vie d'un officier de Bow Street ». Qui raconte donc différents cas qui sûrement basés sur des affaires réelles, plus ou moins romancées, mais qui sont finalement assez semblables à ce que va raconter Vidocq.
De son côté, oui.
Mais sachant
sûr.
Que là, on est 2 ans avant Vidocq, on est en 1827.
Ouais, ouais.
Voilà. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans donc, des pays voisins, le même genre de problématiques émergent au même moment.
Parce que la société évolue de la même manière.
Voilà. Donc ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que Vidocq n'a pas tout inventé, mais qu'on avait aussi des faits semblables, puisqu'on avait l'industrialisation, l'urbanisation également en Angleterre. Et puis, si l'on veut remonter un peu plus, on va se projeter du côté de la Chine, et là, bien quelques siècles plus tôt.
On va plus loin, là.
On va beaucoup plus loin. Quelques siècles plus tôt, dès le XIIIe siècle, on trouve en Chine un ouvrage tout à fait précurseur, un recueil qui s'appelle « Affaires résolues à l'ombre du poirier ». Je vous passe le titre en chinois, il ne faudra pas écorcher à vos oreilles. Et cet ouvrage-là, qui était destiné aux magistrats, est en fait un recueil qui donne le détail d'authentiques affaires criminelles qui sont là pour instruire les magistrats. Et ce recueil, il a été longtemps confiné à la Chine, mais il a été quand même diffusé en Occident en 1956 grâce à une traduction en anglais qui a été effectuée par un érudit néerlandais qui était diplomate, qui s'appelle Robert Van Gulik. Et c'est Robert Van Gulik qui est connu des amateurs de littérature policière, puisqu'il est l'un des premiers auteurs de romans policiers historiques.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il s'est inspiré de ce recueil d'affaires réelles pour écrire une série d'enquêtes menées par un juge fictif qui est le juge T.
En effet.
Et donc il a une série d'enquêtes, ce sont les enquêtes du juge T.
Et il les place historiquement au XIIIe siècle ?
C'est ça, ouais.
Non. Il les place plus récemment.
Avant, dans la Chine du 7e siècle, sous la dynastie Tang.
Ah ouais, voilà. Ok. Ouais.
Et donc, dans chacune des histoires du juge T, on a 3 affaires criminelles qui sont reprises de cas documentés en Chine par ce recueil-là. Donc, on voit comment la criminalité, les faits divers criminels réels ont pu, depuis très longtemps, en fait... influencer, inspirer la fiction policière.
Ce qui est fou, c'est que c'est, voilà. Ça se passe 600 ans avant Vidocq quand même, voilà, 13e siècle, alors, c'est impressionnant. Voilà, la Chine a connu un développement qu'on ne connaît pas,
alors, mais qui est bien antérieur. Sans qu'il y ait eu d'influence sur l'Occident, parce que c'est resté fermé, resté caché. Mais c'est assez marrant de voir que dans différents endroits du monde, mm-hmm. on a eu le même type en fait, d'influence, de phénomènes qui se sont déroulés à partir de la criminalité vers la fiction. Donc la criminalité réelle a toujours inspiré de tout temps et continue à le faire la fiction policière.
Très bien.
Voilà. Donc on peut conclure notre dossier
en concluons mon cher Jérôme
en voyant que Vidocq est tout de même une figure majeure du développement du genre policier.
Ouais, tout à fait.
Et de la figure de l'enquêteur, ce que j'ai pas dit mais qu'on peut maintenant révéler puisqu'on a vu Sherlock Holmes, c'est que même mm-hmm. chez Sherlock Holmes on trouve des traits de Vidocq, notamment sa facilité à se déguiser mm-hmm. et son aisance dans le combat en fait mm-hmm. ce sont des traits qui ont été empruntés directement à Vidocq.
Tout à fait.
Et
tout
qu'on retrouve fait. Chez Sherlock Holmes directement. Mm-hmm. Voilà, avec un parcours donc assez fabuleux du bandit vers le policier, qui est une chose assez particulière, n'est-ce pas ?
Et je dirais assez même qu'il peut-être n'aurait plus cours actuellement, parce que je pense que ce serait tout à fait déplacé.
Tout à fait, depuis qu'on a instauré ces fichus casiers judiciaires.
D'abord, voilà, je pense qu'on difficile. Pourrait déjà pas changer d'identité, comme tu le disais, comme ça. Je pense qu'en général, on sait à peu près tout ce que tu as fait. Et par ailleurs, on garderait peut-être le statut d'indic, mais on n'arriverait peut-être pas avec un tel casier à aller plus loin actuellement. Des choses très surprenantes à une époque qui était en même temps très classique et finalement, il y avait des tas de choses qui étaient permises.
Donc, parce qu'il y avait pas la mobilité sociale était plus...
Ouais, il n'y avait pas tout cet appareil administratif lié à l'informatique. Donc les gens pouvaient user et abuser de certaines choses dans la société.
Une petite pause jingle.
Allez. À 23 fois.
C'est un truc chinois en fait.
Du mystère.
Calade. Alors voilà notre Miss Lemon qui se met à parler pendant le jingle. C'est pas bien. Une tape sur la mimine.
Allez, place aux chroniques. Nous avons nos trois chroniqueurs que nous remercions d'être fidèles au poste. Et dans l'ordre, aujourd'hui, nous aurons la chronique SF de Geek Patrick, mm-hmm. la chronique police de Miss Lemon et la chronique bande dessinée de Gilles Poussin.
Mais c'est merveilleux tout ça. Alors on commence par quoi ? Dans l'ordre,
c'est
tu as dit
parti Geek avec Patrick. Geek Patrick. Mm-hmm. La chronique de Geek Patrick.
Générique, je suis trop fort.
Alors Geek Patrick, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, figure-toi que je vais vous parler non pas d'un, non pas de deux, mais de trois romans en une seule fois. Oui, car c'est une trilogie que je vais vous présenter, qui est parue dans les années 2010 et que j'ai lu avec passion grâce à la médiathèque de Villefranche durant un été chaud, il y a environ 5 ans. C'est une trilogie, articulons, écrite par un auteur américain qui s'appelle Justin Cronin. Ça commence autour de 2005 de mémoire, un jour où sa fille, qui doit avoir dans les 8 ans à l'époque, lui dit ces mots adorables. « Dis papa, et si tu m'écrivais un livre sur une fille qui sauve le monde ?» J'espère qu'elle n'avait pas une voix aussi stupide, mais bon, je fais ce que je peux.
Drôle d'idée, là.
Mais non, homme sans cœur, quand on est un papa écrivain et qu'on aime sa fille, on ne peut que relever le défi. Et c'est ce qu'a fait Justin Cronin, et ça va nous donner en 2010 le premier tome d'une trilogie, la trilogie Le Passage. Le Passage, c'est le titre du tome 1. Alors, de quoi ça cause ? C'est une variation moderne sur le thème des vampires. On est à l'époque actuelle et tout part d'études scientifiques qui sont effectuées dans le plus grand secret par l'armée américaine sur 12 condamnés à mort suite à l'infection d'un patient zéro, c'est-à-dire un scientifique du nom de Fanning qui a été infecté par une chauve-souris d'une espèce inconnue en Colombie. Mais les caractéristiques scientifiques du sang infecté de Fanning sont stupéfiantes et donnent de bonnes idées aux militaires. Quelle bonne idée ils ont eu, les militaires ?
Oh, d'en faire des armes de guerre, non ?
Ah oui, c'était pas très surprenant, mais tu as raison, c'était bien ça, ils voulaient construire un super soldat. Bon, le problème, c'est que tout va partir de travers et les 12 condamnés et le patient zéro vont tuer tout le monde dans la base, s'échapper et se répandre dans tous les États-Unis. Et dire, oh là, d'accord, en fait, ce n'est que le premier tiers du tome 1. On saute carrément 96 ans à ce moment-là et on passe aux États-Unis 96 ans après qui ont été ravagés par les inarrêtables vampires qui ont aussi une capacité redoutable, ce qui est de créer un lien mental avec toutes les personnes qu'ils ont infectées. Et il se crée donc une véritable armée de vampires invincibles. Les pauvres humains survivants sont donc retranchés dans des villes fortifiées, protégés principalement par des spots gigantesques, parce que, heureusement, ces vampires craignent la lumière. On garde cette petite tradition.
Bon, est-ce qu'il n'y a pas une fille qui sauve le monde, non ?
Oui, c'est vrai, on avait parlé de la fille qui sauve le monde. Elle est là, elle s'appelle Amy, et elle a été infectée très jeune par le virus à 8 ans, mais ça ne l'a pas transformée en monstre. Et elle a survécu à l'effondrement des États-Unis. Et figure-toi qu'à que 96 ans plus tard, la jeune Amy paraît avoir 15 ans. Elle vieillit très, très lentement. Dans la deuxième partie de ce premier tome, on suit un petit groupe de survivants accompagnés par Amy dans leur fuite et leur lutte contre un des 12, Babcock. C'est le premier des condamnés qui a été recruté pour les tests et c'est un des plus puissants grâce à la force psychique qu'il crée avec ses troupes de vampires. Alors je vous passe les détails, mais ils vont réussir à le tuer et ils vont découvrir par la même occasion que quand un des 12 meurt, toute sa tribu de vampires liée psychiquement à lui meurt également. Et ça, c'est un bon plan.
L'espoir renaît alors.
Exactement, l'espoir renaît et ça nous permet de passer au tome 2 qui s'intitule Les 12. Il est sorti en 2012, Les 12, 2012, voilà, procès mnémotechnique. L'objectif de ce deuxième tome, c'est la traque des 11 autres vampires leaders afin de les tuer. Et pour ça, ce deuxième tome va encore enrichir notre horizon de façon assez folle puisqu'en fait, il va remonter dans le passé. Démarrer 75 ans avant les événements du tome 1, c'est-à-dire 21 ans après l'évasion des vampires et le début de la destruction des États-Unis. Tu suis avec Jérôme ?
Non, je suis perdu complètement.
Il faut faire un effort quand même. Bon, je vais finir de te perdre dans la forêt comme un petit pousset, parce que figure-toi qu'ensuite, on saute dans le temps pour revenir 15 ans avant les événements du tome 1, puis on ressaute dans le temps pour arriver 20 ans après les événements du tome 1.
Ah, quel souk !
Oui, c'est vrai, c'est un vrai souk. Mais à la lecture, on s'y retrouve très bien, en fait. Alors, tu vas me dire, pourquoi tout ce beans ? Eh bien, c'est tout simplement pour placer un certain nombre de personnages et d'événements qui vont être décisifs à la fin de ce volume. On y découvre notamment, vers la fin du tome 2, la dernière partie du tome 2, une société effroyable, véritablement concentrationnaire, qui est tenue par un homme maintenu en vie par la transfusion du sang d'un porteur sain du virus. Cet homme s'appelle Gilder. Et figure-toi qu'il a signé un pacte avec les 11 vampires restants. Et c'est grâce à ce pacte que les 11 vampires vont être réunis dans un même lieu.
Alors là, je sens que ça va chauffer.
Eh oui, tu as bien senti, ça chauffe très très fort dans le final du tome 2. Imaginez, prenez la scène d'action et de suspense la plus forte que vous ayez vue au cinéma et multipliez le niveau d'adrénaline par 10 et vous aurez une petite idée de la puissance absolument incroyable de ce final. Je n'avais personnellement jamais lu de ma vie une scène d'action aussi puissante et aussi bien menée. Au point qu'à la fin du livre, je me suis dit que l'auteur, Justin Cronin, s'était fourré dans un sacré guépier en écrivant cette scène. Parce que comment être à la hauteur dans le tome 3 quand on a écrit un final aussi extraordinaire ? That is the question. Bon, en tout cas, à la fin du tome 2, les 11 autres vampires sont tués, mais si vous avez bien suivi, vous vous souvenez qu'il en reste un. Il reste le patient zéro, Fanning.
Donc le tome 3 va sans doute voir la confrontation avec Fanning.
Mais t'es vraiment le meilleur, Jérôme. Hein. Ça ne m'étonne pas que tu diriges cette émission. Parce que, franchement,
je suis.
Le tome 3 est intitulé La Cité des Miroirs et c'est bien le combat final contre Fanning qui va être le centre de cette histoire. Ce tome 3 est sorti en 2016. Il va clore en apothéose cette saga hors du commun. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire cette fois-ci, hein, parce qu'elle est extrêmement complexe également. Pour information, chaque tome des 3 volumes fait environ 900 à 1000 pages. Donc, il fait dans la démesure Justin Cronin. En tout cas, sachez que la violence de la contre-attaque de l'armée des zombies de Fanning va être dévastatrice pour des États-Unis qui commençaient à peine à se reconstruire, mais que Amy, la petite fille qui sauve le monde, va bien réussir à tuer Fanning.
Alors là, on prie les auditeurs de nous excuser parce que Geek Patrick s'est laissé emporter, nous a tout raconté de l'histoire.
J'ai décidé de faire une chronique spéciale spoiler, de dire pourquoi, parce que j'avais envie, mais surtout parce que je n'avais pas le choix. En fait, je devais vous raconter la scène finale de ce tome 3, et bon, fallait bien que vous compreniez d'où elle sortait, cette scène finale, parce que cette scène, elle est vraiment bouleversante. C'est cette scène qui termine la trilogie. Elle se passe, figure-toi, 1000 ans après les événements que je viens de narrer. Les humains des autres continents ont calculé que c'était le temps nécessaire pour que d'éventuels vampires survivants meurent de vieillesse. Ils avaient un rythme de vie, un cycle de vie tellement ralenti qu'il a fallu 1000 ans. Alors, ces humains survolent le territoire des États-Unis avec je ne sais quel véhicule, 1000 ans après. Hein, je pense qu'il y a dû y avoir des progrès. Et ils survolent des champs sur le territoire des États-Unis. Ils voient dans un champ des mots écrits en très gros à la main avec des pierres. Et ces mots ont une signification, je ne saurais plus, je me souviens plus lesquels c'est. Alors ils atterrissent et ils trouvent, devine quoi, une très vieille dame qui s'appelle Amy. Elle n'a plus toute sa tête, mais elle est toujours en vie. C'est bien elle, c'est Amy, la petite fille qui a sauvé le monde. Auditeurs de Calanma Radio, foncez à la médiathèque de Villefranche ou foncez dans une librairie et lisez la trilogie Le Passage de Justin Cronin, vous m'en direz des nouvelles. J'en ai terminé.
La chronique de Geek Patrick.
Alors, changeons d'univers pour la chronique suivante. Nous allons nous transposer, non pas dans le futur, mais géographiquement en Guyane, où nous allons découvrir l'étoffe d'un gendarme. À vous, Miss Lemon.
L'étoffe d'un héros. Bonjour, je suis toujours ravie de retrouver l'équipe de 23 pas du mystère pour traiter de l'aspect vestimentaire du rapport textile des héros de romans policiers et populaires. Cette semaine, Patrick Jérôme, je vous pose la question de quelle étoffe notre héros, le capitaine André Anato, de l'auteur français Colin Niel, sera-t-il fait ? Sera-t-il plutôt rugueux ou soyeux ? Nous allons voir tout ça.
Je n'en sais rien, je ne le connais pas.
Donc Colin Niel est un auteur français qui a écrit 4 romans sur des affaires du capitaine Anato. Donc il a commencé avec les hamacs de carton et en sous-titre une enquête du capitaine Anato en Amazonie française. Donc je précise, André Anato est capitaine de gendarmerie à Cayenne en Guyane française à la section Orpaillage qui est un groupe de peloton d'intervention comme un mini GIGN local. Donc il y a de quoi faire et peu de volontaires en fin de compte pour ce territoire. Mmh. Donc l'orpaillage, c'est une activité, si vous ne le savez pas, d'extraction de l'or, officielle ou clandestine. Pour cette partie-là, je vous inviterai à lire le deuxième volume qui est de Colin Niel, qui est « Ce qui reste en forêt ». Colin Niel est un auteur qui connaît bien le territoire de l'Amazonie française pour y avoir travaillé plusieurs années. Il imprègne ses récits de couleurs locales et a prévu un petit glossaire de créole en fin d'ouvrage, ce qui est très intéressant. Il introduit en même temps que l'intrigue la situation actuelle du territoire, aussi son histoire, les coutumes du peuple dit des Noirs marrons, c'est-à-dire les descendants d'esclaves d'origine africaine qui se sont libérés par eux-mêmes et ont revendiqué leur indépendance et se sont installés dans la forêt amazonienne. On parle alors du grand marronnage. Dans les romans, il est question des peuples principaux, c'est-à-dire les Ndjuka, les Aluku et les Paramaka, qui tous parlent un créole différent et ont fondé des sociétés différentes et peuvent aussi avoir des différends entre eux. Mmh. On comprend que chacun a ses coutumes locales ancestrales, que le fleuve Maroni sert de frontière officielle entre la Guyane française, le Suriname et le Brésil. Mais en fait, c'est une frontière naturelle, mais qui est très perméable, imprécise entre ces pays, qui est une source de problèmes de nationalité et de papier pour les locaux natifs. Oui. Revenons à Anato. Donc Anato, son aspect textile qui va nous servir de fil conducteur. Donc dans sa touque, c'est-à-dire un récipient hermétique qui sert au transport de denrées alimentaires et aussi pour les effets personnels lorsque l'on transporte des personnes en pirogue sur le Maroni. Dans sa touque, nous trouverons donc des tenues classiques, polo gris, pantalon noir bien propre, biceps probablement gonflés en salle plutôt qu'en condition réelle. Je cite. Hein. Mmh. Et un crâne rasé de très près, lisse et sans défaut. Il a également une tenue réglementaire avec des galons de capitaine rivés aux épaules pour les séances officielles où d'ailleurs il ne se sent pas très à l'aise. On apprend par ailleurs que certains officiels portent encore la tenue dite de petit blanc, c'est-à-dire une tenue de cérémonie ultramarine qui reste de la période coloniale, tout en blanc, avec des chaussures blanc vernis. Mmh. Côté enquête et terrain, donc, il a une cape de pluie parce que les pluies peuvent être torrentielles, un hamac, une moustiquaire pour passer la nuit dans les villages au bord du Maroni ou en forêt amazonienne, selon les besoins des enquêtes et les épisodes. Il y a aussi beaucoup de moiteur, des pantalons collés aux cuisses, de la sueur dans le dos, sur les chemises, une atmosphère de suffocation et de l'air conditionné à fond. Donc Anato, pour vous le présenter, est un originaire, c'est-à-dire qu'il est né en Guyane de parents guyanais, mais a grandi en région parisienne. Originaire, c'est par opposition au métro, c'est-à-dire les Français de la métropole qui sont présents dans les récits et dans tout l'appareil administratif d'outre-mer. La lecture de ces romans permet de comprendre l'écart et des niveaux de vie et des modes de vie des populations, les disparités de traitement et l'incompréhension qui règne entre les cultures et la notion du territoire et de la terre et des papiers civils, c'est-à-dire on a des papiers ou on n'a pas de papiers. Donc, dans son premier roman, Les hamacs de carton, Anato a demandé un transfert depuis Paris à la suite donc, d'un accident de la route mortelle pour ses parents qui étaient retournés en visite en Guyane. Donc, il a tout largué pour ce poste à Cayenne pour retrouver ses racines, maintenant qu'il reste seul. Anato ne sait pas grand-chose en fait, de son hérédité. Ses parents indiquent toujours qu'il y a eu des problèmes de famille, mais il n'en sait pas plus. Donc, il va partir à cette recherche et a de la difficulté parce qu'il se trouve travailler avec une équipe de métro, donc, c'est-à-dire les métropolitains donc, qui ne sont pas forcément très bien intégrés à l'exception d'un qui est marié à une Brésilienne et parle brésilien. Et puis de son côté, il est taiseux, il ne sait pas communiquer, il pose beaucoup de questions, il parle peu, il décide tout seul sans explication. Ce qui fait qu'il ne gagne pas immédiatement la sympathie ni de son équipe ni des personnes qu'il peut côtoyer. Sa position est délicate, il est vu comme s'il avait un traitement de faveur lié à son origine et au fil du temps, il va réussir à démontrer ses capacités, son excellence dans son travail. André Anato, c'est ce que j'appellerais un misfit, c'est-à-dire il n'est pas d'ici, il n'est pas de là-bas, il est à la recherche permanente de son identité et malgré son origine et sa couleur de peau, il est rejeté par ses congénères. Car il représente les forces de l'ordre de la métropole et ne parle de surcroît que très peu de mots de créole. Donc, je cite une remarque de sa nièce qu'il retrouve au cours de son enquête. C'est bizarre, un Djouka qui ne parle pas le Djouka, c'est comme vos yeux, aucun Djouka n'a la couleur de ses yeux. Donc, il n'est pas intégré. En plus, il repart sans cesse sur son questionnement de patrimoine génétique et de filiation. Ce questionnement permanent fait obstacle à la construction de sa vie d'homme. Donc il n'a pas d'héritage et de fait ne se projette pas. Donc il est incapable d'entretenir une relation durable avec une femme. Donc en conclusion, André Anato, à l'étoffe d'un héros, a tendance très soyeuse parce qu'il est très lisse, nickel, ravageur auprès des femmes, il faut bien le dire. Et aussi de son côté homme-enfant perdu à la recherche de ses racines familiales enfouies dans son enfance. Malgré cela, il se dégage tout de même une forte tendance rugueuse par rapport à son côté peu communicant, ses décisions très abruptes et ce qui déclenche des flots d'incompréhension autour de lui. Voilà, moi je vous invite à relire ces romans ou à les lire si vous ne les connaissez pas pour vous plonger dans un univers très fort de l'Amazonie avec une enquête policière et des éléments magiques aussi. À bientôt.
Merci Miss Lemon. Bien, Jérôme, tu reprends la parole.
Après la SF et le polar, notre chronique bande dessinée avec un avatar de métal hurlant peu connu puisqu'il a été fait aux États-Unis sous forme de comics, de comic books.
Le poussin s'en mêle.
Donc la première vie, disons, de Métal Hurlant en tant que mensuel de bande dessinée se termine en 1987. Et quelques années plus tard, il y a eu une première renaissance, mais cette fois aux États-Unis, et sous forme de comic book. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail cette renaissance de Métal Hurlant chez les Humanoids aux États-Unis?
Alors ce qui s'est passé, c'est que je vous épargne les successions de rachats jusqu'à un moment donné où en 1989 Vous avez un jeune golden boy suisse qui s'appelle Fabrice Giger, un homonyme donc de Giger, le dessinateur, mais bon, pas de la même famille. Bref, tout ça pour dire que Giger rachète les humanoïdes associés, poursuit la politique d'album, bon an, mal an, et à un moment donné décide d'aller s'installer à Los Angeles avec sa famille. Et la locution « les humanoïdes associés » étant trop difficile à prononcer pour nos amis américains, il appelle sa maison « Humanoids ». Et il continue donc ce que les autres avaient commencé, avec une prédominance quand même scénaristique très forte d'Alexandro Jodorowsky. Et arrive un moment donné où il vient l'idée de relancer le titre Métal Hurlant, mais à la mode américaine, c'est-à-dire sous forme de comic book, mais qui sera publié également en France, mais uniquement en librairie, donc un format assez petit. Et ça redémarre en 2002. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc, du fait de son positionnement géographique à Los Angeles, il arrive à trouver des dessinateurs américains beaucoup plus facilement que s'il était resté en France. Donc vous avez notamment une association avec Jerry Friesen, donc lui qui vient de Belgique, scénariste donc à ce moment-là, et qui s'occupe aussi de collections aux humanos. Avec Jerry Friesen, il trouve un Américain qui s'appelle Guy Davis, et ils font ensemble une bande dessinée très amusante et on dirait aujourd'hui décalée, qui s'appelle Les zombies qui ont mangé le monde, d'ailleurs qui a donné un film, une adaptation récente au cinéma. Guy Davis, il a aussi beaucoup bossé avec Mike Mignola sur BPRD, sur une série d'horreur et de science-fiction. Il y a également deux Français très intéressants, un peu oubliés aujourd'hui, qui travaillaient à quatre mains, comme on dit, Marc Riou et Marc Vigouroux, qui eux, sous un scénario de Philippe Thiroux, faisaient un polar qui se passe dans les années 20, sur fond de problèmes raciaux. Et le dessin est très original, l'histoire est très bien menée. C'est sorti en album, même en intégrale, parce qu'il y a eu 4 volumes, 4 ou 5 volumes, et il y a une intégrale qui existe. Mais ça n'a pas accroché. Corben, qu'on avait connu donc au tout début, en 1975, refait un passage dans Métal Hurlant, donc avec La Couronne du Roi. Il fait une couverture du magazine, et puis également donc cette histoire, La Couronne du Roi, très bien dessinée. Et puis surtout, il y a une révélation d'As Pastoras, dessinateur assez impressionnant. Je dirais une sorte de Möbius trash, pour aller vite, même s'il y avait déjà eu Geoff Darrow qui était pas mal aussi dans son genre, dans le genre Les Enfants Möbius. D'As Pastoras avec Carlos Portela au scénario crée une série qui s'appelle Les Hérésiarques, donc en 2 volumes, et c'est un univers très proche de Jodorowsky, encore lui, à la fois mystique et à la fois cruel. Il y a une espèce de mélange typiquement Jodo. Et d'ailleurs, Das Pastoras, plus tard, collabora avec Jodorowsky sur une série qui s'appelle Castaca. Et enfin, il y a un dernier auteur remarquable qui était sorti en album aux Humanos au début des années 90, qui s'appelle Fred Beltran, qui avait fait Le Ventre du Minotaure, donc directement en album, et puis il avait publié aussi des histoires courtes dans une série d'albums dirigée par Franck Margerin, qui s'appelait Franck Margerin Présente, qui tentait plus ou moins de remplacer Métal Hurlant, où c'était des histoires courtes par thème. Et donc Fred Beltran était de cette bande-là. Et là, à un moment donné, Fred Beltran, dans les années 90, il découvre l'informatique au moment où il bosse pour les Japonais, donc il faut aller assez vite. Et par l'informatique, il réussit à faire d'autres choses avec le dessin qui existait, de par sa maîtrise. Et donc, il va être connu comme ça. Il va travailler lui aussi avec Jodorowsky, vraiment le scénariste incontournable de ces années-là chez les Humano. Et donc, il va publier, il va revenir quand même en 2006, donc au dernier numéro de cette formule de métal hurlant américaine, au trait. Qui va un peu se lasser, on va dire, des outils informatiques. Et il publiera une très belle histoire, là, d'ailleurs, qui vient d'être éditée dans la série Opus Humano, qu'on trouve en ce moment dans les kiosques et marchands de journaux.
Donc, on a eu combien de numéros dans cette série, un petit nombre. Donc, la numérotation prend la suite de la première revue. Donc, on démarre au 134, c'est
ouais,
ça
134.
Et on va jusqu'en...
Alors, on va jusqu'en... oui, alors, avec un tout, ouais. une toute petite faille. Toute rupture, c'est-à-dire que, en fait, c'est essentiellement... pardon, c'est essentiellement de 2002 à 2004... donc jusqu'au 145, et puis il y a un ultime numéro plus gros.
Une interruption et il ressurgit
En 2006. Donc,
avec un format plus grand.
Voilà, avec une couverture de Beltran d'ailleurs, absolument magnifique.
Et, qui évoque un peu l'univers de gothique.
Fred, à ce moment-là, il est... Oui,
la famille Adams, un peu.
Oui, il y a ça, vampires, et puis tout l'univers des Cramps, tu vois, et tout ça. Et puis, il y a un autre dessinateur aussi, qui est un peu de la bande, qui s'appelle Bézian, Frédéric Bézian, qui est un peu, même si le dessin est très différent, mais ils sont dans cette famille-là, comme tu dis, gothique, le noir, le fantastique, etc.
Et ça, donc, c'est l'ultime numéro de cette deuxième série. Donc en 2006 qui se termine là.
Et on va dire provisoirement, fort heureusement pour nous, mais c'est l'ultime numéro de cette période qui venait des États-Unis.
Bien, nous arrivons à la fin de notre émission.
Merci Gilles, merci Geek Patrick, merci Miss Lemon.
Merci à vous.
Merci à vous.
Je rappelle que toutes les références que nous avons évoquées et bien d'autres renseignements se retrouvent sur notre page de podcast en même temps que l'émission.
Tout à fait.
Réécouter à l'infini jusqu'à la fin des temps.
Qu'est-ce que mars ensuite?
Le mois prochain, nous aborderons un nouveau personnage de l'histoire du roman policier, un personnage célèbre qui est Arsène Lupin.
Ah, formidable.
Avec un invité. Nous aurons nos chroniqueurs Geek Patrick pour la science-fiction, un ouvrage dont il a refusé de nous donner le titre.
C'est un secret.
Mais il y en aura un.
Oui, il y en aura.
Miss Lemon qui nous parlera de Mario França, un personnage d'un romancier portugais, Miguel Miranda. Et Gilles Poussin qui nous parlera de l'œuvre d'un grand maître du fantastique, Lovecraft, illustré par un grand maître de la bande dessinée, Philippe Drouillet.
Wow. C'est un programme, magnifique programme.
Voilà,
magnifique,
vous pouvez baver en attendant le mois prochain. Et merci à tous d'avoir écouté. À bientôt.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Ma radio.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Calade, ma radio.